Andréane Bissonnette, bonjour.
Bonjour.
Dans Borders and Border Walls, c'est-à-dire frontières et murs frontaliers, avec Elisabeth Vallet, vous notez que les murs frontaliers ont fait un retour remarqué au tournant des années 2000, plus de 70 à l'heure actuelle, contre une quinzaine au moment de la chute du mur de Berlin en 1989. Les attentats du 11 septembre ont constitué un élément d'accélération, mais le phénomène avait débuté avant. Comment peut-on l'expliquer?
En fait, c'est un phénomène là qui touche l'ensemble du monde, qui n'est pas circonscrit à une seule région géographique. On a des murs en Amérique du Sud, on a des murs en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe et en Asie. Et c'est pour ça que c'est un phénomène qui est intéressant d'étudier, parce que ce n'est pas géographiquement limité, mais en même temps, l'impact d'un mur en particulier peut être étudié dans une perspective multiscalaire. Donc, comment est-ce que le mur s'inscrit à l'échelle mondiale, mais également c'est des impacts à l'échelle locale. Et c'est un peu ce qu'on fait avec le livre dans la seconde section du livre, où on regarde vraiment les impacts locaux de murs frontaliers. Donc en fait, il est intéressant donc de se plonger dans ce phénomène-là, parce que on parle tant de au niveau du discours qui les justifie, qui est axé vraiment sur une division entre le soi et l'autre et les conséquences qui découlent du mur. Et en termes de discours qui justifie, on voit que vraiment le mur est une réponse à des mouvements non désirés, que ce soit de biens, de contrebande ou des mouvements humains. Et c'est une réponse qui est symboliquement forte, en ce sens qu'on vient construire une structure visible à la ligne frontalière afin de déterminer là où se termine l'intérieur et s'amorce l'extérieur de l'État. On cherche ainsi à rassurer la population face à une menace sécuritaire externe qui est construite dans les discours publics et politiques. Et c'est quelque chose qui est évoqué dans le chapitre de David Shirk par le biais de la théorie de la panique morale.
Mais... Oui, vous parliez de panique morale. Les historiens, oui. Les sociologues qualifient effectivement le discours d'incitation à la peur qui est pratiqué par certains dirigeants lors de la construction de murs de panique morale, c'est ça?
Oui, exactement. Et c'est un enjeu qu'aborde David Shirk dans l'étude de cas de la frontière mexicaine-états-unienne et qui est également abordé par Elisabeth Vallet dans son chapitre, où on vient souligner là que le mur est un marqueur entre deux espaces, l'espace de sécurité et l'espace de risque, et que le mur donc se trouve à être une solution symbolique temporaire à un enjeu qui soit perçu ou réel, mais dont l'efficacité demeure limitée.
Et alors, ce que dit Elisabeth Vallet aussi, c'est qu'il y a un renforcement de la ligne frontalière. Le mur, ce n'est pas une simple frontière, c'est plus que cela. Elle oppose ligne territoriale et zone frontalière.
Absolument, et c'est un enjeu qui revient dans plusieurs autres chapitres dans le livre, notamment le chapitre de David Shirk, de Raffaella Cormol, ainsi que mon chapitre, parce qu'on voit qu'avec l'évolution des frontières et la perception politique d'un contrôle nécessaire aux frontières des États, il y a vraiment une évolution de la ligne de démarcation entre deux souverainetés qui, en fait, est devenue une zone frontalière par un double mouvement qu'on appelle en études frontalières l'externalisation de la frontière, c'est-à-dire repousser les contrôles frontaliers au-delà même de la ligne frontière, et l'internalisation, c'est-à-dire l'imposition de contrôles migratoires et frontaliers à l'intérieur du territoire d'un État, par exemple avec des points de contrôle migratoire et la présence d'agents frontaliers à l'intérieur d'un territoire.
Vous parliez d'immigration, de contrôle de l'immigration. C'est en effet l'une des raisons qui revient le plus fréquemment pour expliquer la construction d'un mur, cette recherche de la sécurité, cette lutte contre l'immigration, où on voit bien que les discours tendent à criminaliser, mais également à déshumaniser les migrants.
Oui, absolument. Et c'est un des discours principaux. Mais en fait, ça recoupe la question de est-ce que les murs sont efficaces, ou en fait, lorsqu'on a ce discours anti-immigration vient vraiment faire une démarcation entre le soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, d'imposer un mur viendrait là, symboliquement mettre une division visible entre ces deux parties. Mais en fait, les murs face au mouvement migratoire, on voit que sont peu efficaces, en ce sens que les mouvements vont contourner les murs, passer dessous via des tunnels, passer dessus via des échelles. Mais effectivement, le discours anti-immigration l'immigration est un discours qui est très présent dans la justification de la construction des murs frontaliers.
Et concernant l'efficacité de ces murs, c'est ce que vous dites, hein. Ils ont un impact sur les populations, sur les populations qui migrent, mais en même temps, le flux, on va dire, est ralenti peut-être, mais en tous les cas pas stoppé.
Effectivement, donc ralenti, voire même seulement temporairement, parce que les murs, donc leur efficacité, elle est temporaire et elle est géographiquement circonscrite à l'endroit où le mur est construit, parce que lorsqu'on pense aux murs frontaliers, on a cette impression que c'est l'entièreté de la frontière qui est murée, mais bien souvent, ce sont des portions de la frontière, comme c'est le cas notamment là, à la frontière mexicaine-états-unienne. Et on a donc des flux qui vont contourner ces murs-là, là où l'impact est vraiment plus permanent. C'est en termes environnementaux où lorsqu'on a des murs qui vont faire dévier des cours d'eau, voire entraver le flux d'un cours d'eau ou entraver des migrations animales.
Vous pointez un paradoxe dans votre livre, c'est que le nombre de murs a fortement augmenté et dans le même temps, la mondialisation, donc sur les années 90-2000, la mondialisation, elle, s'imposait. Or, avec la mondialisation, on a quand même des chercheurs, des penseurs qui avaient enterré l'idée de frontières, d'État-nation. Et donc, en fait, mondialisation peut rimer avec mur, avec frontières rigides.
Oui, absolument. Et en fait, on l'avait vu à la suite de la chute du mur de Berlin, il y avait eu ces discours où la mondialisation pourrait marquer, là, pour certains, la fin des territoires. Mais on voit qu'avec le 11 septembre 2001, il y a eu vraiment une augmentation de la construction de murs. Plus de 50% des murs totaux sont construits dans les 20 dernières années. Et le discours de la mondialisation demeure, mais particulièrement pour les biens. Il y en est tout autre pour les individus, dont on tente de contrôler les mouvements, que ce soit pour des raisons de sécurité, en raison d'un conflit actif, ou pour freiner des mouvements migratoires. Et ce qu'on perçoit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la mobilité, telle que le souligne notamment le Anne-Laure Amiladzari dans ses recherches, une question qui est liée à l'individu. Donc, nos marqueurs identitaires vont influencer nos possibilités de mouvement à l'international, notamment en termes de quel passeport nous avons et les moyens financiers aussi.
On parlait de murs et de mondialisation. C'est intéressant, cet article consacré aux murs qui a donc été érigé par Christina Kirchner entre l'Argentine et le Paraguay. Il est intéressant de voir comment l'érection de ce mur a été le fait d'une présidente, Christina Kirchner, qui était pro-mondialisation, et que le président suivant, Mauricio Macri, qui avait pu être critique contre la mondialisation, lui n'a pas voulu développer de nouveaux murs à cette frontière.
Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, du côté de Christina Kirchner et Nestor Kirchner, on avait donc une politique qui était également pro-immigration, donc d'intégration qui était plus continentale. Et c'est un chapitre, celui de Robert Andalina, qui est intéressant tant pour ce constat, mais également parce que c'est un chapitre qui aborde un mur en Amérique du Sud, qui est une région qui est peu étudiée dans les études frontalières. Donc vraiment une contribution intéressante dans notre livre à ce niveau-là. Donc tant de cette idée contraire mondialisation et construction de murs, mais également pour la région géographique qui est étudiée.
Merci beaucoup, Andréane Bissonnette.
Merci à vous, bonne journée.